Donc, réflexion sur le châtiment, séance du 24 novembre 2022. Donc, c'est la troisième séance consacrée à la question. Dans la deuxième, c'était la séance du 18 octobre, nous avons abordé la lecture de l'Orestie, cette grande tragédie produite par Eschyle en moins 458 à Athènes. Je rappelle que c'est une trilogie, c'est peut-être même la seule que nous puissions connaître, hein, la seule qui reste, et qu'elle est composée de trois pièces, donc Agamemnon, l'écho et fort, c'est ce que nous avons lu, et puis la dernière, les Euménides. Alors chaque titre, évidemment, a son explication, j'y reviendrai. Alors pourquoi lire l'Orestie? Parce que, comme nous l'avions dit, cette tragédie met en scène le grand pas qui conduit de l'enchaînement sans fin de la violence, cet enchaînement qui procède de la loi de vengeance, qui est une loi qui est considérée comme une loi sacrée dans la Grèce archaïque. Donc, cette tragédie met en scène le grand pas donc, qui conduit de l'enchaînement sans fin de la violence à l'avènement de la justice de la cité athénienne au 5e siècle. Donc, la lecture d'Orestie est par conséquent très instructive. Elle nous permet de réfléchir non seulement au droit pénal, au sens du châtiment, mais aussi aux raisons qui ont conduit à son instauration. Alors la solution adoptée par la déesse Athéna dans la dernière pièce, les Euménides, cette solution c'est celle d'un tribunal chargé désormais de juger les affaires criminelles, l'aréopage. Eh bien cette solution paraît mettre un terme à la logique infernale de la vengeance. Infernale, pourquoi? Parce qu'elle répond au crime par le crime et conduit ainsi la cité au chaos. Alors, est-ce que ce tribunal met pour autant un terme définitif à la vengeance? Est-ce que la justice exige son exclusion? Est-ce que le châtiment exige qu'on renonce une fois pour toutes à la vengeance? Ce sont les questions que nous allons nous poser. En tout cas, la fin de l'Orestie méritera toute notre attention. Parce qu'il n'est pas certain que les juges de l'aréopage arrêtent leurs décisions comme le font les juges de nos sociétés modernes qui sont régis par un État. La cité athénienne n'est pas un État. Elle n'a pas de pouvoir politique institutionnalisé, hein, ce qu'on appelle un État, qui soit placé au-dessus des citoyens et qui soit chargé de veiller au maintien de l'ordre public. Il faut bien ici s'en souvenir. Donc la cité athénienne, c'est l'assemblée des citoyens. C'est l'assemblée des citoyens qui, à travers les juges de l'aréopage, édicte la peine encourue par un coupable. Dès lors, il n'est pas certain non plus que cette peine ait le même sens que celle qui est prononcée par les juges d'un tribunal d'État, comme dans nos sociétés. Est-ce qu'elle vise avant tout à sanctionner un homme parce que son délit ou son crime est une infraction à la loi? Ça, c'est comme ça que nous concevons, nous, la peine, le châtiment, hein, ce que mérite, au fond, le criminel parce qu'il a fait infraction à la loi. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut l'entendre? Ou est-ce que la peine n'a pas plutôt pour fonction de réparer une victime, de compenser l'offense qu'elle a subie? Et alors, à ce moment-là, le tribunal examine sa plainte, il examine l'accusation portée par la victime et il écoute aussi l'accusé, bien sûr, et à ce moment-là, il s'interroge et se demande s'il faut réparer la victime, s'il faut lui rendre justice et si on doit lui donner satisfaction par une peine. Et à ce moment-là, c'est un tout autre état d'esprit, si vous voulez. Donc c'est cette question-là qui va dominer. Hein. Mais alors, je comptais la reprendre surtout à la fin, je n'aurai peut-être pas le temps. Mais comment dire, c'est une question centrale qu'il faudra de toute façon aborder. Alors, si on l'envisage, comme je le disais dans le dernier cas, si on envisage la peine comme ce qui donne avant tout satisfaction à une victime, eh bien, à ce moment-là, la peine, c'est le paiement en retour d'une offense qui a été subie. Et vous avez rencontré cette expression en lisant l'Orestie. Hein. La victime réclame vengeance. Qu'est-ce qu'elle attend? Elle attend effectivement un paiement en retour, une sorte de compensation du mal qu'elle a subi. Et à ce moment-là, loin de rompre avec la vengeance, eh bien le tribunal, au contraire, lui assure une certaine forme de régulation. Il évite seulement que la vengeance ne dégénère en violence. Vous voyez? C'est pas la même chose. En tout cas, vous voyez très vite que derrière la question du châtiment, est-ce qu'il faut d'ailleurs parler de châtiment dans le deuxième cas? Est-ce qu'il ne faut pas plutôt parler de peine? Donc derrière la question du châtiment, on voit que le problème qui va surtout se jouer, c'est celui du sens qu'on attribue à la vengeance. Est-ce qu'elle est seulement, comme nous le disons aujourd'hui, quelque chose de purement irrationnel, quelque chose de barbare, une sorte de processus interminable qui conduit les hommes de violence en violence et engendre souffrance après souffrance? Est-ce que c'est cela essentiellement la vengeance, hein? C'est l'idée que nous nous en faisons spontanément. Hein? Auquel cas, il faut coûte que coûte l'exclure, si on veut déterminer un juste châtiment. Ou, au contraire, peut-on lui donner sens? Peut-on la préserver de l'excès? Peut-on la préserver de ce cortège de violence qui l'accompagne, parfois? Et est-ce qu'on peut lui permettre d'aboutir à une juste peine? C'est cette éventualité qu'il faut aussi envisager. En tout cas, ce sera la perspective d'un philosophe comme Aristote. Aristote, philosophe du IVe siècle avant Jésus-Christ, qui est d'ailleurs un philosophe qui réfléchit beaucoup sur les tragédies, qui a écrit aussi une poétique, où il analyse effectivement les tragédies. Donc c'est la perspective d'un philosophe comme Aristote, dans sa rhétorique, un livre qui s'appelle « La rhétorique », et puis dans son éthique, l'éthique à Nicomaque. Eh bien, cette perspective-là, si vous voulez, nous l'envisagerons après la lecture de l'Orestie, et nous confronterons l'analyse d'Aristote à celle d'un autre philosophe, plus tardif, Sénèque, qui est un stoïcien romain, qui, lui, condamne la vengeance et, d'une certaine façon, inaugure la condamnation de la vengeance dont nous sommes les héritiers. Nous héritons de ce type de condamnation. Pour nous, la vengeance, c'est ce qu'il faut absolument refouler. Nous en avons exclusivement une image négative. Ce n'est pas le cas des Grecs de l'Antiquité, hein, c'est pas ça. Et même dans beaucoup de sociétés, la violence, la vengeance, c'est un système de justice, hein, qui n'a rien de déréglé, vous voyez, qui obéit même au contraire à des règles. En tout cas, la lecture de l'Orestie va nous aider à approfondir ce problème. Alors, lors de notre séance du 18 octobre, nous étions arrivés au début de la troisième pièce, c'est-à-dire au début des Euménides. Et avant de poursuivre, je crois qu'il faut, pour rafraîchir la mémoire, il faut revenir très brièvement sur le problème qui se joue à la fin de la deuxième pièce, qui s'appelle les coéphores. Alors, je suis désolé de répéter un peu, mais je crois qu'il faut le faire tout de même pour que les choses se mettent en place. Alors, vous le savez tous, Oreste a vengé son père Agamemnon qui était le roi de la cité d'Argos, le général en chef des armées grecques, qui a vaincu la cité de Troie. Donc, il a vengé son père Agamemnon en tuant sa mère Clytemnestre. Dès lors, à la fin des coefforts, le problème à résoudre est le suivant. Comment rompre le cycle infernal de la vengeance? Comment mettre un terme à la violence? Et donc, à la fin des coefforts, donc la deuxième pièce, le cœur qui exprime ici, dans cette pièce, il exprime surtout, au fond, une sorte d'opinion, hein, d'opinion publique. Le cœur est ravagé par l'angoisse, il est ravagé par l'inquiétude, et il soulève cette interrogation que je cite, hein, on l'avait cité, c'est page 337. Où donc s'achèvera, où s'arrêtera enfin, endormi, le courroux d'athée? Alors évidemment, ici, précisons, qui est athée? Athée, c'est une sorte de figure mythique, qui, alors c'est difficile à traduire, qui désigne à la fois le crime et la folie, c'est au fond l'esprit vengeur, si vous voulez. L'esprit vengeur. Athée, le courroux d'athée, eh bien, effectivement, il est éveillé à chaque fois qu'il y a un crime. Il est en colère. Et sa colère va s'abattre sur le criminel et va conduire à un autre crime. Vous voyez, c'est ça qui va se passer. Donc, et vous assistez à ce moment-là à un processus interminable. Hein, on va de crime en crime, de violence en violence. Si je formule le problème dans le langage mythologique et religieux qui prédomine dans les deux premières pièces, eh bien, on peut le formuler de cette façon. Et vous vous souviendrez très, très bien de ce que nous avions dit. Comment délivrer Oreste de la poursuite furieuse des Irini? Parce que vous avez Athée, puis vous avez les Irini. Les Irini, ce sont des déesses vengeresses. Hein, des déesses, ce sont les déesses de la vengeance. Eh bien, comment délivrer Oreste de la poursuite furieuse des Irini? Parce que dès qu'il a tué sa mère, tout de suite autour de lui, les Irini sont là. Elles sont affreuses, elles sont hideuses, elles sont effrayantes. Et complètement entourées par les Irini. Comment s'en défaire? Comment arriver à leur échapper? Et à chaque fois qu'il y a un crime est commis, les Irini sont réveillées. Elles sont réveillées, elles pourchassent, elles poursuivent le criminel jusqu'à ce qu'il ait été châtié à son tour. Alors comment donc délivrer Oreste de la poursuite furieuse des Irini? Comment, pour le dire aussi autrement, comment laver la souillure du crime d'Oreste? Parce que, vous vous souvenez, pour les anciens, la faute est une souillure. C'est une souillure. Le crime est appréhendé comme une souillure. Et donc, d'une certaine façon, voilà ce qu'il faut faire pour délivrer finalement un criminel de son mal. Il faut en quelque sorte purifier de sa souillure. Hein. Donc, et s'il est souillé, si son crime est une souillure, il risque de contaminer tous ceux qui sont autour de lui. Il contamine d'ailleurs, d'abord, dans un premier temps, toute sa lignée, tous ses descendants, voyez, qui sont affectés par sa souillure. Et le crime n'est pas une affaire purement individuelle, il a une dimension collective. Voyez. Alors, le dieu Apollon, l'un des jeunes dieux olympiens, qui est en train de monter... Parce qu'il y a tout cet aspect-là. Hein. Le jeune dieu Apollon, qui intervient dans la seconde pièce, hein, dans les coefforts, eh bien, le dieu Apollon doit maintenant protection à Oreste. Pourquoi? Parce que Oreste a obéi à son injonction. Il a vengé son père, comme Apollon le lui commandait. Et souvenons-nous d'ailleurs que Apollon avait menacé Oreste des pires souffrances. Il avait menacé de le faire poursuivre par les Irini s'il ne vengeait pas son père. Donc, Oreste a obéi. Apollon, évidemment, s'est engagé à le protéger et il croit pouvoir le protéger en recourant à la pratique du sacrifice. Alors ici, il faut bien sûr rappeler l'explication du sacrifice, la fonction du sacrifice. La vengeance, La loi de vengeance réclame qu'on verse le sang pour répondre au sang versé. Hein ? Voilà, la seule manière finalement de réparer le sang versé, c'est d'en verser à son tour, hein, pour apaiser la victime. Et Apollon croit pouvoir détourner la logique de la vengeance en faisant verser le sang d'un jeune animal qui, du fait de sa différence radicale, ne risque pas à son tour de réclamer vengeance. Astucieux. Hein ? C'est à ça que sert un bouc émissaire. Hein ? Il faut trouver une victime qui n'est pas de nature, n'est pas de même nature que celle qui a été tuée, et qui ne risque pas de réclamer à son tour vengeance. Seulement, la solution d'Apollon échoue. Elle échoue parce que les Irinies, qui étaient momentanément endormis, se réveillent en voyant apparaître l'ombre de Clytemnestre. Et à ce moment-là, elles continuent de poursuivre Oreste en réclamant vengeance pour Clytemnestre. Alors, comment s'explique cet échec ? Parce que normalement, il y avait une bonne entente entre les dieux de l'Olympe et puis les anciennes divinités que sont les Irinies. Cet échec s'explique justement par la division qui affecte dorénavant le monde divin, qui se trouve divisé en deux camps. D'un côté, vous avez les nouveaux dieux, donc les dieux olympiens, comme Apollon, et puis après, vous verrez Athéna. Et le chef des dieux olympiens, vous savez, c'est Zeus. Hein, le chef des dieux de l'Olympe, c'est Zeus. Donc d'un côté, vous avez les jeunes dieux. Et puis de l'autre côté, vous avez les anciennes divinités qui existaient déjà avant la dynastie de Zeus, avant que Zeus tue son père, Cronos, hein, je crois, hein, si je me souviens bien. Et parmi ces anciennes divinités, vous avez les Irinies, qui sont des divinités de la vengeance. Alors, jusqu'à présent, jusque-là, il y avait alliance et répartition des tâches entre les nouveaux dieux et puis les anciennes divinités. Zeus faisait appliquer sa justice par l'intervention des Irinies, qui seuls pouvaient officier auprès des mortels et les punir, sans prendre le risque d'être contaminé. Vous voyez, elles étaient au fond des intermédiaires, en quelque sorte des auxiliaires. Et c'est Zeus qui rendait la justice, mais pour l'appliquer, il fallait les Irinies. Pour punir, il fallait les Irinies. Or, par son initiative, Apollon a déchiré ce que le cœur qui représente les Irinies, dans la troisième pièce, appelle l'antique partage. Hein, c'est la formule utilisée par le cœur, hein, qui représente les Irinies au début des Euménides. En prétendant en effet intervenir lui-même directement dans son propre temple pour laver Oreste de sa souillure, eh bien, il a mis les Irinies à l'écart. Hein, le dieu Apollon a mis à l'écart les Irinies. Donc il a déchiré, comme disent les Irinies, il a déchiré l'antique partage. Et vraiment, c'est vraiment à partir de ce moment que le monde des dieux est divisé, qu'il y a conflit ouvert entre Zeus et sa dynastie d'un côté, et puis de l'autre côté, les anciennes divinités de la vengeance, donc les Irinies. Et à ce moment-là, vous allez vite comprendre qu'à travers le cas d'Oreste, c'est une opposition radicale entre les dieux qui va se jouer. Et finalement, le fond de l'affaire, c'est ça. Oreste, c'est un prétexte. Le problème n'est plus seulement celui du sort d'Oreste, mais le problème touche plus profondément la nature du droit. Quel est le droit qui doit désormais prévaloir ? Est-ce que c'est l'ancien droit ? Est-ce que c'est l'ancienne loi de vengeance dont se prévalent les Irinies et qui jusqu'à présent fonctionné? Ou est-ce que c'est le nouveau droit que veulent instaurer les dieux olympiens? C'est ça maintenant l'enjeu. Et voilà où nous en étions, si vous voulez, hein, de notre lecture. Enfin, on avait été un peu plus loin, mais c'était ça pour l'essentiel que nous avions montré. Nous avions abordé à peine la lecture de la dernière pièce, les Euménides. Alors, je commence cette lecture. Au terme donc de multiples exercices de purification, il y a tout un itinéraire hein, suivi par Oreste pour être purifié et pour pouvoir être réintégré en quelque sorte dans la cité. Eh bien, au terme de multiples exercices de purification, Oreste rend à Athènes et il attend dans le sanctuaire de la déesse Athéna, donc il attend dans son sanctuaire l'arrêt de la justice. Il attend l'arrêt de la justice. Alors, je l'avais dit, l'apparition d'Athéna transforme, l'apparition d'Athéna transforme vraiment l'atmosphère de la tragédie. Dès le départ, elle écarte toute forme d'insulte, de violence, et elle exige une confrontation dialoguée entre les parties. Elle refuse de se laisser enfermer dans la pratique magique et religieuse du serment que les Iriniens voulaient voir appliquer. Alors, qu'est-ce que c'est que le serment? Le serment, ce n'est pas du tout ce que nous entendons aujourd'hui par là. Le serment, c'est une pratique qui consiste en quelque sorte à rendre captif l'adversaire de l'accusation de son crime. Si les Iriniens parviennent à faire avouer Oreste, en lui faisant avouer qu'il a vraiment tué sa mère, ça y est, il est coincé, il est fichu, vous voyez, des forces religieuses vont s'abattre sur lui et il sera vaincu. Vous voyez, c'est comme ça qu'on envisage la chose. Alors il devient ainsi la proie de forces religieuses hein, qui s'abattent contre lui. Athéna abandonne ce type de pratique, elle exige une justice qui discute du cas du criminel. Et qui évalue son acte. Donc le problème, à partir de ce moment, n'est plus de savoir si Oreste a bel et bien tué sa mère. Il a tué sa mère, personne ne le nie, il ne le nie pas. Mais le problème, c'est de se demander si son acte était juste ou non. Et c'est un questionnement nouveau. Dès lors, il s'agit de mener une enquête. Il s'agit de confronter des témoignages. Il s'agit d'établir un jugement. Et pour ce faire, Athéna, eh bien, décide d'instituer un tribunal. Ce tribunal, c'est l'aréopage. Et je vous propose, à ce moment-là, de regarder le premier texte dans le livre Collection Folio. C'est page 365-366. Voici ce que dit Athéna. Si l'on trouve la cause trop grave pour que des mortels en décident, il ne m'est pas davantage permis à moi-même de prononcer sur des meurtres dictés par un courroux vengeur. Alors surtout que tu as su du moins venir en suppliant, soumis et purifié, sans danger pour ma demeure, et que je te tiens aussi pour libre de tout tort à l'égard de ma ville. Ma ville, c'est Athènes, évidemment. Mais de leur côté, celles-ci, d'ailleurs les Iriniens, celles-ci ont des droits qu'on ne saurait écarter à la légère. Et si elles n'obtiennent pas de voir triompher leur cause sur le sol de ce pays, plus tard va s'abattre le trait de leur dépit, un intolérable et triste fléau. J'en suis donc là. Que je les accueille ou que je les repousse, les deux me réservent d'inévitables maux. Pourtant, puisque la chose en est arrivée là, je vais faire ici le choix de juge du sang versé. Un serment les obligera, et le tribunal qu'ainsi j'établirai sera établi pour l'éternité. Vous faites appel aux témoignages, aux indices, auxiliaires assermentés du droit. Je reviendrai quand j'aurai distingué les meilleurs de ma ville, pour qu'ils jugent en toute franchise, sans transgresser leur serment d'un cœur oublieux d'équité. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir essentiellement de ce, de cette décision hein, de créer, d'instituer l'aréopage. Alors, selon Athéna, première remarque, le jugement ne peut être l'affaire ni des mortels, ni des dieux. Hein. Dans le système qui prévalait auparavant, en Grèce, la justice était rendue par des rois. Par des rois qui étaient, au fond, des chefs de grandes familles. C'était une justice familiale. Et ils prétendaient arbitrer seuls. Cette forme de justice est congédiée par Athéna. Des mortels ne sont pas à même de juger. Seuls. Et puis aussi, en précisant que le jugement n'est pas non plus l'affaire des dieux, Athéna indique que la justice n'a plus rien à voir avec un acte religieux qui met en jeu des puissances divines. C'est ce qu'elle montre, c'est ce qu'elle dit. Donc l'affaire ne peut donc être tranchée que par un tribunal. Un tribunal qui commence par écouter les parties opposées, d'abord les Irénées, puis ensuite au reste, avant de délibérer et d'arrêter son jugement. Le jugement, donc, devient une affaire publique. Devient une affaire publique, il relève d'une assemblée de citoyens. Et puis, alors, quant au serment, parce qu'il est question du serment, il n'a plus le même sens. Le serment est maintenu, mais il n'a plus du tout le sens religieux qu'il pouvait avoir. Ici, il ne s'agit plus de mettre en jeu des forces religieuses qui dépassent les hommes. Il s'agit de prêter serment, comme on le fait aujourd'hui, c'est-à-dire, au fond, de s'engager à juger en toute franchise et à faire preuve d'équité dans l'exercice du jugement. C'est ça que fait le serment, hein, c'est ça que doivent faire les juges, hein, ceux qui participent à l'aréopage. Donc l'essentiel, à partir de ce moment, réside dans la discussion des thèses en présence. Alors, qui a raison? Qui a raison? Voilà, la question, c'est ça. Qui a raison entre Apollon, qui est l'avocat d'Oreste, et Oreste intervient aussi un peu, et puis les Irénées, les divinités de la vengeance, qui sont les avocates de la victime Clytemnestre, et qui sont représentées ici par le cœur et le chef du cœur, c'est-à-dire le coryphée. Hein, le coryphée, c'est le chef du cœur. Alors, qui des deux a raison? C'est la question que les juges vont devoir examiner. Apollon, alors voyons les thèses en présence. Apollon affirme que le meurtre de Clytemnestre, perpétré par Oreste, est tout différent de celui d'Agamemnon, perpétré par Clytemnestre. Comme il le dit, c'est page 370, Agamemnon a été abattu sournoisement dans son bain. Vous vous souvenez de la scène. En outre, les deux crimes, celui perpétré par Oreste et puis celui perpétré par Clytemnestre, les deux crimes ne sont en rien comparables. Le crime commis par Clytemnestre était une double souillure. Je cite les propos d'Oreste, parce que c'est aussi Oreste qui parle. Elle s'était souillée de deux crimes ensemble. En tuant son époux, elle a tué mon père. En tuant son époux, elle a tué mon père. Deux souillures. Deux. Pas une, deux. Et Oreste fait remarquer que lorsque Clytemnestre était encore vivante, jamais les Irénées ne l'ont poursuivi. C'est vrai. C'est page 369. Et c'est bien là, en effet, ce qui oppose les deux parties. Pour les Irénées, c'est essentiellement le matricide qui est grave. Oreste est gravement coupable d'avoir tué sa mère, car elle est du même sang que lui. Clytemnestre n'est pas gravement coupable d'avoir tué Agamemnon, son époux, puisqu'elle n'était pas du même sang que sa victime. C'est moins grave. Ainsi, pour les Irénées, la mère a plus d'importance que le père, qui est aussi l'époux. Et par là, les Irini affirment la primauté des liens du sang et de la femme par laquelle le sang se transmet. Quant à Apollon, c'est la thèse opposée. Apollon est au contraire le partisan des liens du mariage et du primat masculin, alors que les Irini se targuent d'être exclusivement les esprits vengeurs de la mère, Apollon affirme au contraire qu'une mère n'est pas grand-chose. Une mère n'a pas grand-chose à voir avec son enfant. Regardez le texte 3. Voici, regardez l'argumentation d'Apollon. Je ne vais pas tout lire, hein, mais regardez bien. « Écoute encore ma réponse et vois la justesse de mon argument. Ce n'est pas la mère qui enfante celui qu'on nomme son enfant. » Elle n'est que la nourrice du germe en elle semé. Elle ne fait que transmettre la semence mâle, c'est tout. Enfin, c'est pas grand-chose, quoi. Celui qui enfante, c'est l'homme. C'est l'homme qui la féconde. Elle, comme une étrangère, sauvegarde la jeune pousse, quand du moins les dieux n'y portent point atteinte. Bon, vous voyez, la thèse d'Apollon est radicale. Ainsi, donc, selon Apollon, une mère n'a pas d'importance. Elle n'a pas grand-chose à voir avec son enfant. Hein. Bon, c'est une matrice, hein, si vous voulez. Elle ne fait que donner asile, pour un certain temps, au développement de la semence mâle. Donc, vous voyez, l'opposition qui se dessine. Et si on regarde bien l'opposition, en fait, elle est triple. Il y a une triple opposition. D'abord, dans le texte, hein, dans la pièce, à la fois. Vous avez d'abord l'opposition, que j'ai déjà présentée, l'opposition entre les jeunes dieux et puis les anciennes divinités, les Irini. Vous avez d'abord cette opposition. Ensuite, vous avez l'opposition entre l'homme et la femme. Qui est le plus important? Et puis, troisième opposition, l'opposition entre les liens du mariage et puis les liens du sang. Apollon est pour les liens du mariage. Les Irini affirment les liens du sang. Donc, vous avez une opposition radicale, voyez, entre des valeurs. On pourrait dire qu'il y a une opposition de valeurs, si vous voulez, entre les uns et les autres. Et ce qui est remarquable dans l'échange qui oppose Apollon au coryphée qui parle au nom des Irini, c'est l'attitude partisane et radicale de chacun des deux camps. Chacune des parties affirme sa position de manière tranchée, avec clarté, simplicité, sans douter de sa légitimité. Il n'y a ainsi problème pour aucun des deux camps. Chacun a raison. Chacun a raison. Et c'est justement en cela que réside le caractère problématique de la situation. C'est cela qui explique qu'elle paraisse aussi inextricable. Cette opposition entre le camp d'Oreste et d'Apollon d'un côté, et puis celui des Irini de l'autre, n'est pas sans rappeler l'opposition irréductible et insoluble qui sera celle du roi Créon, d'un côté, et d'Antigone, de l'autre, dans la fameuse pièce de Sophocle, Antigone. Vous avez, dans la tragédie de Sophocle, aussi une opposition de valeurs de ce type-là. C'est ça qui fait le tragique, hein, de chacune des pièces. Là aussi, si vous voulez, aucun des protagonistes ne peut prendre en compte le point de vue de l'autre. Vous avez d'un côté la loi de la cité, qui est affirmé par Créon. Hein, Créon refuse de donner une sépulture aux frères d'Antigone parce qu'il a pris les armes contre la cité. Hein, donc il n'aura pas de sépulture. Et puis, de l'autre, vous avez Antigone qui affirme, elle, au contraire, les lois du sang, la loi religieuse. Et elle veut absolument, il faut absolument que son frère soit enterré. On doit absolument donner une sépulture aux morts. Et ces deux lois s'opposent radicalement, sans compromis possible. Ni Créon, ni Antigone ne délibèrent. Hein, ils n'hésitent pas. Ils sont chacun de leur côté dans l'immédiateté de leurs convictions. Et le philosophe Hegel, hein, philosophe allemand, 19e siècle, qui a beaucoup réfléchi sur la question du tragique, eh bien, il montre que justement, c'est ça l'essence du tragique, c'est que dans la tragédie, dans chaque tragédie, les protagonistes adhèrent à la loi qu'ils affirment comme si elle était l'unique loi, comme si elle était l'unique loi. C'est-à-dire que l'immédiateté de leur conviction implique l'exclusion réciproque des points de vue, d'où le déchirement, d'où le conflit insoluble, d'où le conflit indépassable de la tragédie. Et ce qui fait le moteur, voyez, de ce conflit, bah, c'est l'unilatéralité de chacun des points de vue, qui paraît absolument inconciliable avec l'autre et qui porte chacun à la démesure. Hein, chacun est poussé à la démesure du fait d'être persuadé d'être le seul à avoir raison. Alors cette comparaison avec Antigone permet de souligner aussi l'originalité d'Eschyle. Parce que d'une certaine manière, Sophocle, donc l'auteur d'Antigone, est un auteur plus tragique qu'Eschyle. Parce que si vous regardez bien l'Orestie, dans l'Orestie, dans la troisième pièce de l'Orestie, dans les Héménides, Eschyle envisage une issue possible. Il envisage une issue possible au tragique qui caractérise la situation. Et cette issue, c'est justement l'institution de l'aréopage. C'est-à-dire que la cité, effectivement, va pouvoir apparaître comme le lieu de la réconciliation, et alors que chez Sophocle, la cité, c'est un lieu d'exclusion. C'est une société close qui rejette Antigone, hein, hors de ses lois, et qui condamne Antigone, finalement, à une attitude de défi qui la mènera jusqu'à la mort. Hein. Donc là, vous voyez, il y a quelque chose d'assez original dans la tragédie d'Eschyle. Il y a comme un dépassement tout de même du tragique qui s'amorce. Et ce qui rend possible l'issue que propose la tragédie d'Eschyle, bien, c'est que chacune des parties est disposée à laisser la décision à la déesse Athéna. C'est-à-dire que Apollon est prêt à laisser la décision à la déesse Athéna, parce que elle est comme lui, une déesse qui fait partie des dieux d'Olympe. Hein, bon, elle est de la même famille, si vous voulez. Et puis les Irinies aussi sont bien disposées à l'égard d'Athéna, parce que Athéna est venue leur parler avec respect, avec déférence. Donc les deux camps admettent de s'en remettre à la solution inventée par Athéna, c'est-à-dire l'institution de l'aréopage. Ça va débloquer la situation. Alors, l'issue du procès est également riche d'enseignements. Athéna avait préalablement annoncé qu'en cas d'égalité des voix, Oreste serait acquitté. Hein, il serait acquitté. C'est exactement ce qui va se passer. Il va y avoir égalité des voix et Oreste va être acquitté par conséquent. Et plus remarquable encore, cette égalité des voix est obtenue grâce à la voix d'Athéna. Grâce à la voix d'Athéna elle-même, qui a voté en faveur de l'acquittement d'Oreste. Ainsi, la décision qui permet d'acquitter Oreste et de condamner l'ancien droit, en fait, hein, eh bien, cette décision se fait avec le minimum de voix. Et je dirais même qu'elle est prise contre la majorité des juges de l'aréopage. Hein, puisque c'est Athéna qui fait pencher la balance. Hein. C'est grâce à Athéna qu'il y a égalité. S'il n'y avait pas Athéna, il n'y aurait pas d'égalité. Il n'y a pas de majorité absolue. Hein, pour le coup. Hein. Il n'y a pas de 49-3. C'est clair. C'est comme ça, là. Hein. Alors, donc, vous voyez, alors évidemment, on peut toujours dire, et c'est vrai d'ailleurs, hein, que les menaces formulées par les Irinies au début du procès, et proféré contre la cité d'Athènes, en cas de vote défavorable, ces menaces ont certainement pesé lourd. Hein. Et des juges qui ont été inquiétés, certainement qu'ils ont voté, sous la pression, hein, on est d'accord. Mais ce qui est intéressant, ce qui est, je crois, le plus important, c'est de comprendre que cette décision a une fonction dramatique dans la tragédie. L'essentiel ici, c'est que le partage des voix à la fois permet d'acquitter Oreste sans humilier les Irinus. Et ici, il faut faire très attention, d'ailleurs, à ce que déclare Athéna aux Irinus après les avoir entendus se plaindre, après les avoir entendus menacer la cité. Regardez texte numéro 5. Texte numéro 5, c'est page 2. Hein, vous avez d'abord le cœur qui exprime, au fond, ce que pensent les Irinus. Bon, je ne vais pas lire. Et puis, vous avez la réponse que leur fait Athéna, et que j'ai souligné en partie. Hein, texte numéro 5, regardez. Athéna, écoutez-moi. Épargnez-vous de lourds sanglots. Vous n'êtes pas des vaincus. Un arrêt indécis, seul, est sorti de l'urne pour satisfaire la vérité, non pour vous humilier. Vous voyez, c'est ça le plus important. Vous n'êtes pas des vaincus. Hein, et bon, elle reconnaît que la décision est assez fragile. Elle est assez fragile. Mais grâce à ce vote, Athéna pourra plus facilement apaiser les Irinus. Vous allez voir que c'est ça le plus important. Vous allez voir pourquoi. Alors, à cela, on pourrait objecter que le propre vote d'Athéna est tout de même un vote partisan et qu'il fait pencher la balance en faveur d'Oreste. C'est vrai. La voix d'Athéna, c'est vrai, déterminante, c'est vrai, c'était un vote partisan. Mais elle s'en explique elle-même. Elle vote pour Oreste parce qu'elle est par avance acquise à l'homme, du fait qu'elle n'a pas de mère. Eh oui, Athéna, c'est une fille qui n'a pas de mère. Elle n'a qu'un père. Vous voyez bien que, sous-entendu, la femme n'est pas indispensable. C'est cette idée-là qui revient tout le temps. Hein ? Et donc elle n'a pas de mère, donc elle a voté forcément pour l'homme. Mais, bon, là n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de comprendre que, en assumant sa voix partisane, elle veut montrer qu'il s'agit là d'une voix parmi d'autres, en fait. C'est une voix parmi d'autres. Et elle veut montrer que chacun des juges vote selon des raisons qui peuvent tout à fait différer. Vous voyez, elle s'inscrit dans cette espèce de cadre démocratique. Chacun a ses raisons de voter. C'est pas les mêmes. Mais la mienne, bon, oui, c'est vrai, j'assume ma voix partisane, mais je n'en fais pas un absolu. Vous voyez, je n'en fais pas un absolu. Donc l'essentiel est de comprendre que ce qui est le plus important, ce ne sont pas les raisons qui motivent chacun des votants, mais c'est le résultat du vote. Aussi fragile soit-il. C'est le résultat du vote qui va permettre une solution pacifique. Voilà ce qui est le plus important. Ce qui compte, c'est qu'une majorité, aussi minime soit-elle, aussi fragile soit-elle, se prononce en faveur de l'acquittement. Donc, la décision, oui, c'est vrai, est très fragile. Oui, c'est vrai, c'est une décision sans validité solide, mais c'est une décision qui ouvre désormais la possibilité de juger pacifiquement. Le tribunal peut désormais trancher en matière de justice. Désormais, il est la seule instance compétente en matière de justice. Et la cité, dorénavant, a le monopole des décisions de justice, comme elle a aussi, pour employer une formule d'un sociologue moderne, Max Weber, elle a aussi le monopole de la violence légitime. Vous voyez ? C'est-à-dire que ce qui compte, c'est ça. C'est ça, hein, c'est le plus important. Maintenant, la question de savoir est-ce qu'il y a une justice vraie, c'est une question qui ne pose pas. Vous voyez ? Ce qui compte, c'est qu'une décision soit prise à l'issue de ce vote. Voilà ce qui était le plus important. Alors évidemment, est-ce que ça satisfait les Irinus ? Non. Non. Elles ne se laissent pas immédiatement convaincre par la décision de l'aréopage. Et comme elles sont vaincues, elles menacent de punir Athènes de cette décision. Elles veulent maintenant exhaler le poison, elles veulent répandre la peste, Comme d'ailleurs elle l'avait annoncé avant le procès. Hein, elle avait dit, attention, hein, si ça tourne mal, nous, on ne va pas être contente. Hein. Bon. Alors, Athéna a le pouvoir de protéger sa ville. Elle dispose de la foudre de Zeus. Elle pourra très bien utiliser la foudre et puis terminer, les Irinies. Hein, dégager. Mais elle ne veut pas l'employer. Elle ne veut pas l'employer. Car ce qui lui importe surtout, c'est le compromis. Elle cherche avant tout à obtenir une solution politique en faisant une offre avantageuse aux Irinies. Vous allez mieux comprendre par la suite pourquoi. Qu'est-ce qu'elle leur propose? Quelle offre fait-elle aux Irinies? Elle leur propose d'avoir résidence à Athènes. Pas mal, loger, gratis. Bon. Elle leur propose de jouir d'un culte et de recevoir tous les honneurs qui seront dus à leur rang. C'est pas rien, hein. Elles sont promues, de même. Hein. C'est pas rien. Elles sont sensibles, hein, les Irinies. C'est pas rien. Donc, et à ce prix, évidemment, si les Irinies acceptent, elles devront obéir au nouvel ordre de Zeus. Hein, c'est donnant-donnant. Hein. Seulement, les Irinies, elles ne sont pas faciles à persuader. Hein, et Athéna doit s'y reprendre par 4 fois. Et ce n'est que la 4e fois qu'elles acceptent de négocier. L'offre d'Athéna n'atteint son but que grâce à sa patience. Et surtout grâce à ce qu'elle appelle la peito. La peito, alors c'est un mot grec, là, encore une fois, un peu intraduisible. La peito, c'est la persuasion sainte. La persuasion sainte. C'est-à-dire que la peito, c'est la personnification de la force de persuasion, si vous voulez. Une sorte de qualité un peu divine, si vous voulez. Hein, bon. Et elle fait 2 fois appel à la peito, Athéna, pour arriver effectivement à son compromis. Et cette victoire de la Peito, Athéna la présente comme la victoire de Zeus, en tant qu'il est le protecteur divin de l'agora, c'est-à-dire la place publique. Hein, puisque page 380, je ne vous ai pas photocopié cette phrase, mais je vous la cite. Voici ce qu'elle dit. Le dieu de la parole, Zeus, l'a emporté, et mon obstination bienfaisante triomphe pour l'éternité. C'est-à-dire qu'au fond, l'agora, hein, l'agora, c'est le lieu où les citoyens s'affrontent, s'accordent politiquement grâce à la parole. Grâce à la parole et pas par la violence. Hein. Et c'est dire ici combien la conclusion de la tragédie est au fond une consécration de la démocratie athénienne. Dans la démocratie athénienne, au fond, tous les différends se règlent par la parole. Les décisions sont prises ensemble sur l'agora grâce à la parole. Hein, c'est ça qui est important. Et donc, c'est ça qu'elle souligne, hein, en saluant en quelque sorte Zeus comme le dieu de la parole. Hein. Alors, les Irinies finissent par accepter l'offre d'Athéna. Et par cette conciliation, elles cessent d'être des ennemis de la cité, elles cessent de menacer la cité, elles se transforment en amies. Elles deviennent les Euménides. Euménides qui signifie les bienveillantes. Les bienveillantes, hein, c'est ça. Bon, je ne suis pas helléniste, mais il y a l'idée E, c'est un terme qui est positif, et les Euménides sont les bienveillantes. Elles deviennent ainsi de puissants auxiliaires de l'ordre politique de Zeus et permettent d'assurer à Athènes la paix intérieure et la prospérité. C'est-à-dire qu'ici, Athéna va s'occuper de la paix extérieure, elle va s'occuper de la guerre, il y a une répartition des rôles, et pour ce qui est de la paix intérieure, de la sécurité publique, si vous voulez, eh bien, la compétence en reviendra aux Irinies, qui sont devenus les Euménides. Alors on pourrait dire, tout est bien qui finit bien. On pourrait dire que, au fond, on assiste ici à une happy end. Apparemment, c'est le cas. Apparemment. Apparemment, effectivement, Athéna est parvenue à imposer l'institution de l'aéropage. Les Irinies, qui étaient d'abord en colère, sont maintenant apaisées. Elles acceptent de se soumettre à l'ordre de la cité. Seulement, si vous vous en tenez à cette conclusion, vous risquez de passer à côté de l'essentiel. Et c'est ce que je voudrais maintenant montrer. C'est vrai que l'institution de l'aéropage constitue une issue au conflit tragique, je l'ai dit. Seulement, cette issue ne se présente pas comme une exclusion de la vengeance, comme un refoulement de la vengeance, tout au contraire. Et c'est ce qu'il faut ici bien mesurer. Les Irinies ne sont pas exclues, elles sont intégrées. Intégrées dans le nouvel ordre de la cité, c'est-à-dire que désormais, elles vont y jouer un rôle, et un rôle important. Donc il ne s'agit pas de rompre avec la vengeance, il s'agit de l'associer à l'institution de l'aréopage. Et pourquoi les Irinies sont associées à l'institution de l'aréopage? Parce qu'il est absolument nécessaire qu'elles continuent de se faire craindre. Il est absolument nécessaire qu'elles continuent de se faire craindre afin d'assurer la paix intérieure de la cité, afin de garantir sa prospérité. Et ici, il est remarquable qu'à la fin des Euménides, la déesse Athéna réaffirme les valeurs qui ont été énoncées auparavant par le cœur qui représente les Irinies. Ce cœur s'exprimait juste après la décision d'Athéna d'instituer l'aréopage, juste après. Et c'est-à-dire ici, vous allez voir, c'est le texte numéro 2, dont j'ai photocopié plusieurs fragments. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce passage, texte numéro 2 ? Donc, c'était juste après la décision annoncée par Athéna, donc d'instituer l'aréopage. Et le cœur réagit à cette décision. Et il s'inquiète à ce moment-là du bouleversement que cette institution risque d'engendrer. Il s'inquiète des conséquences fâcheuses qui risquent d'en résulter, surtout si Oreste est acquitté. Donc je lis ici quelques extraits de ce texte. Ce jour verra donc l'avènement des lois nouvelles, si la cause, le crime de ce parricide doit ici triompher. À tous les mortels, un si bel exploit va donner... Excusez-moi, je reprends. À tous les mortels, un si bel exploit va donner désormais le ton des licences permises. 1000 bonnes blessures taillées dans leur chair par leur propre fils. Voilà le lot réservé aux parents dans l'avenir qui vient. Et cela parce que les furies, c'est les Irinies, hein, synonyme. Et cela parce que les furies qui surveillaient les mortels auront cessé, elles aussi, de mettre aucun courroux en marche contre de tels crimes. Au meurtre sous toutes ses formes de ce jour, je lâche la bride. Tout fout le camp. Donc, effectivement, que vont devenir les mortels si désormais le crime est impuni? Si on peut tuer sa mère comme ça, sans problème, ils vont la quitter après. Qu'est-ce que vont devenir les mortels si les Irinies ne les sanctionnent plus? Le crime va inévitablement prospérer, et évidemment, si le crime prospère, les hommes vont être accablés de malheur. Alors, dans ce passage, j'ai pas encore lu, le cœur reprend la loi de Zeus qui avait été déjà énoncée dans la première pièce, Agamemnon, par un autre cœur qui représentait les vieillards de la cité d'Arcos. Donc, oui, le texte fonctionne un peu en écho, hein, vous voyez, des reprises comme ça. Et donc, dans notre texte, là, celui que je viens de vous lire, vous allez voir, vous avez un passage qui reprend ce que le cœur d'Agamemnon avait déjà énoncé, la fameuse loi de Zeus. Alors, qu'est-ce que déclarait le cœur d'Agamemnon en parlant de Zeus? Voici ce qu'il disait. Vous allez voir, c'est repris après. Il a ouvert aux hommes les voies de la prudence. La prudence, il faut l'entendre au sens de la sagesse. Il a ouvert aux hommes les voies de la prudence en leur donnant pour loi souffrir pour comprendre. Souffrir pour comprendre. Et ici, justement, dans notre texte, en écho à ce que déclarait le cœur d'Agamemnon, le cœur des Euménides, qui représente les Irinies, déclare, ici, regardez bien, c'est le deuxième paragraphe, il est des cas où l'effroi est utile et, vigilant gardien des cœurs, il doit siéger en permanence. Il est bon d'apprendre à être sage à l'école de la douleur. Qui donc, homme ou cité, s'il n'est rien sous le ciel dont la crainte habite en son âme ? Qui donc, homme ou cité, s'il n'est rien sous le ciel dont la crainte habite en son âme, garderait le respect qu'il doit à la justice ? Alors, voyez que du début à la fin de l'Orestie, au fond, c'est la même leçon qui est énoncée, la fameuse loi de Zeus. Apprendre à être sage à l'école de la douleur. Souffrir pour comprendre, hein, c'est la même chose. C'est cette leçon que les hommes devraient retenir pour ne pas sombrer dans le chaos. Malheureusement, ils ont du mal à la retenir. Malheureusement, ils ont du mal à la retenir. Parce que si on apprend, bien sûr, la sagesse par la souffrance, bah, cela veut dire, malheureusement, qu'elle vient aux hommes malgré eux. Elle vient aux hommes malgré eux. Cela veut dire qu'ils sont enclins à l'oublier. Dès qu'ils ne souffrent plus, dès qu'ils s'imaginent être à l'abri de tous les maux. Et comme le fait comprendre également le cœur, hein, la crainte, ici, il dit aussi l'effroi. L'effroi inspiré par les Irinies avait quelque chose de bon. Il est très dangereux de le voir disparaître, cet effroi. Hein, qui donc, je reprends cette formule, qui donc, homme ou cité, s'il n'est rien sous le ciel dont la crainte habite en son âme, garderait le respect qu'il doit à la justice. Si les Irinies cessent d'exercer leur vigilance, bah, les hommes et les cités risquent de sombrer dans ces deux extrêmes que sont, comme le cite ensuite le cœur, que sont l'anarchie et le despotisme. Regardez plus loin. Hein, paragraphe qui vient ensuite, troisième paragraphe. Ne consent pas plus à vivre dans l'anarchie que sous le despotisme. Partout triomphe la mesure. C'est le privilège que lui ont octroyé les dieux, le seul qui restreigne leur pouvoir capricieux. Ici, vous voyez que le cœur souligne que les dieux eux-mêmes ont limité leur propre puissance en accordant un privilège à la mesure, en faisant d'elle une règle qui s'applique à tous, y compris à eux-mêmes. Et les dieux eux-mêmes, hein, souscrivent en quelque sorte à cette règle, qui est la règle de la mesure. Or, justement, qu'est-ce que risquent de perdre les hommes si les Irinies ne sont plus là, s'ils n'ont plus rien à craindre? Ben, la mesure. La mesure, c'est-à-dire qu'ils risquent de devenir complètement fous, insensés, déraisonnables. Ils risquent de tomber dans la démesure et d'aller vers le chaos. Et le chaos, ici, il peut prendre deux formes. Soit l'anarchie, soit le despotisme. Vous voyez? Alors, voilà ce que disait le cœur, juste après que Athéna avait pris la décision d'instituer l'aréopage. Eh bien, qu'est-ce que fait Athéna à la fin des Euménides? Qu'est-ce qu'elle dit à la fin des Euménides, quand elle s'est enfin conciliée, ou plutôt avant qu'elle arrive à se concilier les Irinies? Est-ce qu'elle va abandonner les inquiétudes exprimées par le cœur? Absolument pas. Aucunement. Elle va s'adresser aux citoyens d'Athènes en reprenant presque mot pour mot les propos qui avaient été tenus précisément par le cœur auparavant. Et là, vous avez le texte numéro 4. Texte numéro 4, très très court extrait. Voici ce que dit Athéna. Ni anarchie ni despotisme. C'est la règle qu'à ma ville, c'est-à-dire Athènes, je conseille d'observer avec respect. Que toute crainte surtout ne soit pas chassée par elle hors de ses murailles. S'il n'a rien à redouter, quel mortel fait ce qu'il doit. Vous voyez, on retrouve les mêmes termes, la même inquiétude. Hein? Et donc, ici, Athéna confirme, par conséquent, qu'il est important que la crainte subsiste pour assurer le respect de la justice, pour permettre aux hommes de rester dans la mesure. Et c'est la raison pour laquelle elle a besoin des Irinies. Vous comprenez? Elle a besoin de la continuité de leur présence dans le nouvel ordre de la cité. Alors, comme je l'ai dit, elle pourrait tout à fait se contenter d'utiliser la foudre pour vaincre les Irinies et protéger la ville quand ces Irinies, furieuses de l'acquittement d'Oreste, menacent de répandre la peste. Elle pourrait très bien en finir avec elle, mais ce n'est pas ce qu'elle recherche. Au lieu de recourir à l'arme de la foudre, elle cherche au contraire à se concilier les Irinies parce qu'elle a besoin d'elle pour nourrir la crainte des citoyens et assurer ainsi le respect de la justice. Ainsi, en devenant les Euménides, hein, les bienveillantes, après avoir accepté l'offre d'Athéna, les Irinies ne se transforment pas, elles ne changent pas. Il n'y a pas de transformation magique des Irinies, elles restent les mêmes. Elles restent les mêmes en devenant les Euménides. Elles continuent d'être ce qu'elles sont, c'est-à-dire des puissances effroyables qui punissent les sacrilèges et les meurtres. Seulement, désormais, elles contribuent à la paix de la cité et à sa prospérité. Elles contribuent, vous voyez, à maintenir la paix en empêchant les citoyens de s'entretuer. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre ici, hein. C'est-à-dire que l'esprit de vengeance incarné par les Irinies, l'esprit de vengeance qui nourrissait auparavant la violence et la discorde entre les citoyens, eh bien cet esprit de vengeance change de fonction, en quelque sorte. Il change de fonction, il est canalisé en étant mis au service de la cité. Vous voyez ? C'est-à-dire que l'esprit de vengeance se trouve en quelque sorte retourné, canalisé par son intégration dans l'ordre de la cité, et désormais, évidemment, sa mission, sa fonction, eh bien, c'est de châtier les hommes impies et injustes, étant entendu que l'impiété, c'est le crime le plus grave, parce que pour les Grecs, hein, pour les anciens, être impie, c'est-à-dire ne pas honorer les dieux de la cité, c'est forcément être un mauvais citoyen. Hein. La crime d'impiété est forcément une dimension politique, une menace. Il conteste l'ordre de la cité, hein, pour les anciens. Il ne sépare pas Dieu et César. Hein. Alors voilà. Donc il faut bien comprendre. Alors évidemment, c'est à ce moment-là, regardez bien. Vous avez ça, c'est dans le texte numéro 6. Texte numéro 6. Regardez, à un moment donné, Athéna s'adresse au Coryphée, donc le chef du chœur, qui encore une fois représente les Irinies dans les Euménides. Et alors, c'est le texte numéro 6, on va le faire commencer. Ah oui, dès le début, là. Et le Coryphée, mettons que je l'accepte, ton offre. Quels honneurs m'y attendent ? Pas désintéressés, hein. Bon. Et Athéna lui répond : sans toi, nulle maison ne pourra prospérer. Bon, voilà ce qu'il dit. Voilà ce qu'elle répond. Et plus loin, si vous regardez le texte numéro 7, plus loin, je vais plus loin, vous avez le cœur qui, d'une certaine façon, répond de manière plus développée. Voici ce qu'il écrit, voici ce qu'il proclame, j'ai souligné le passage, et que jamais dans cette ville ne gronde la discorde insatiable de misère, que la poussière abreuvée du sang noir des citoyens ne se paie pas, en sa colère, du sang de ces représailles qui font la ruine des cités. Un engagement, voyez, un engagement pris par les ennemis de veiller à ce que la vengeance ne soit plus exercée par des particuliers contre d'autres particuliers, ce qui pourrait entraîner effectivement la ruine de la cité, mais que la vengeance, en quelque sorte, soit entièrement dirigée pour maintenir l'ordre de la cité. Vous voyez? Il y a un changement de sens et de fonction de l'esprit de vengeance. Vous voyez? Au lieu d'opposer les uns aux autres, au lieu d'opposer les citoyens les uns aux autres, et d'arriver effectivement à la dislocation de la cité, bien l'esprit de vengeance est ce qui va assurer une fonction au fond de police. Hein. Vous voyez? Voilà. Alors, s'il faut donc que les déesses vengeresses veillent en permanence sur la cité et se fassent craindre, bah, cela signifie bien que le chaos menace encore et toujours l'ordre de la cité. Cela signifie qu'il n'est jamais, que cet ordre n'est jamais définitivement acquis. Ça peut toujours revenir. Le ténébreux fond obscur de la vengeance peut toujours ressurgir, enclencher des violences et conduire au chaos s'il n'est pas canalisé et intégré, voyez ? Impossible de maintenir l'ordre de la cité sans compter sur l'aide puissante et constante des Irinies devenues Euménides. Et c'est pourquoi il n'y a pas de happy end à la fin des Euménides. C'est pourquoi on ne pourra jamais être délivré de l'inquiétude. Et qu'il serait même dangereux de s'en croire délivré. Il serait très dangereux de croire en une happy end. Et c'est en ce sens que la tragédie peut faire œuvre utile. C'est en ce sens que la tragédie a une fonction éminemment politique en rappelant aux citoyens la menace constante d'un retour au chaos. Et c'est ce que soulignent ces deux commentateurs que sont Jean-Pierre Vernant et Christian Mayer. Je vous ai photocopié quelques textes et je voudrais juste évoquer ça rapidement. Quand je vous ai présenté l'Orestie dans la première séance, et de manière plus générale le théâtre grec antique, je vous avais dit que les tragédies antiques n'étaient pas réductibles à de simples spectacles. On ne va pas au théâtre, hein, comme nous allons au théâtre. Hein. Ça n'a rien à voir, absolument rien à voir. Pour reprendre les termes de Jean-Pierre Vernant, dans son livre qui s'appelle « Mythes et tragédies dans la Grèce ancienne », les tragédies, la tragédie antique, est une institution sociale, je le cite, hein, c'est une institution sociale par le moyen de laquelle la cité se fait théâtre et se prend en quelque sorte comme objet de représentation, se joue à elle-même devant le public. Ou, sur autre citation de Jean-Pierre Vernant, la tragédie ne se contente pas de représenter la cité, elle la présente comme déchirée, elle la présente comme divisée contre elle-même. C'est ça qui est intéressant. Et on ne cherche pas à donner une image magnifiée de la cité, non pas du tout. On la représente en crise, travaillée, hein, par le conflit. C'est ça qui est intéressant. Et pour le comprendre, pour comprendre le rôle de la tragédie, il faut se rappeler que la tragédie antique est inséparable de l'avènement de cet ordre politique nouveau que constitue la démocratie à Athènes au Ve siècle. Comme on l'a vu avec l'Orestie, elle consacre cet ordre en montrant que désormais, les citoyens, par leurs assemblées, par leurs tribunaux, ont le pouvoir de délibérer et décider ensemble du sort commun. Vous voyez, c'est ça qui est nouveau. Alors ça nous paraît, aller de soi, bon, rien d'extraordinaire pour nous, mais non, mais c'est quelque chose d'absolument inouï qu'on en arrive là, n'arrive à créer la cité au 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est quelque chose d'absolument incroyable. C'est là quelque chose d'absolument inédit, d'inouï, dont il faut vraiment que vous mesuriez la nouveauté. Jusque-là, les hommes dépendaient entièrement de la tradition religieuse et mythique. C'est-à-dire que leur action était totalement encadrée par un monde mythique de forces religieuses. Et tout était, en quelque sorte, tracé, balisé. Il y avait ce qu'on ne peut pas faire, ce qu'on peut faire, etc. Mais au fond, ce n'est pas les hommes qui décidaient, c'est les dieux, les forces religieuses. Mais au cours du 5e siècle, les hommes commencent à se séparer de ce monde et ils conquièrent une forme d'autonomie en élaborant ce nouvel ordre politique qui est la cité. Et comme le monde Jean-Pierre Vernant, la tragédie antique, elle correspond à ce moment historique très bref, 30 ans. Ce moment historique où les hommes appartiennent encore à deux mondes, en quelque sorte. D'un côté, vous avez le monde mythique des forces religieuses, celui qui s'exprime, au fond, dans les deux premières pièces, de l'Orestie. Vous êtes dans un monde un peu de magie. Et alors, d'un côté, vous avez cela, puis de l'autre côté, vous avez le monde de la cité. De la cité comme organisation politique, qui est l'œuvre propre des hommes. Eh bien, comme le montre l'Orestie, c'est pour ça que c'est une tragédie absolument exemplaire, comme le montre l'Orestie, le droit, ce que nous appelons le droit, ne peut vraiment commencer qu'à partir du moment où l'homme commence à disposer d'un espace indépendant des forces religieuses. Il faut qu'on s'arrache au sacré pour que le droit commence à exister. Un espace suffisamment autonome pour que l'homme s'interroge pour la première fois sur sa propre activité. C'est la première fois qu'il va se poser la question de savoir s'il faut agir comme ci ou comme ça, s'il a eu raison d'agir de cette façon ou d'une autre. C'est la première fois qu'il se pose des questions sur lui-même, si vous voulez. Pour la première fois, l'homme devient un problème pour lui-même, en tant qu'il est désormais l'agent de son action. Et c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Et cette nouveauté est proprement effrayante. Pour les hommes, elle est effrayante. Elle est effrayante parce que l'exercice de la citoyenneté apparaît aux hommes comme une tâche angoissante, écrasante, car ils craignent d'aller trop loin. Ils craignent de succomber à la démesure. L'hubris, le terme grec signifie la démesure. Et derrière ces figures terrifiantes que sont les Irinies, les fameuses divinités de la vengeance, on peut se demander si les hommes ne dissimulent pas la terreur qu'ils ont de leur propre possibilité d'action. Au fond, ils ont peur d'eux-mêmes, de ce qu'ils pourraient faire, de la folie qu'ils pourraient commettre, en quelque sorte, en agissant. Vous voyez, il y a quelque chose de nouveau. Jusqu'à présent, ils étaient entièrement encadrés par les dieux. Maintenant, l'avenir dépend d'eux. Le sort de la cité dépend de leur activité. Absolument quelque chose d'effrayant. Nous nous sommes habitués à penser ainsi, peut-être. Et en plus, nous disposons d'une tradition. Avant nous, il y en a eu d'autres qui se sont posé la question dans ces termes-là. Mais eux, ce sont les premiers. Ils inventent la démocratie. Et c'est au moment même où ils inventent la démocratie qu'ils élaborent la tragédie, qu'ils vont inventer l'histoire, qu'ils vont inventer la philosophie. En 30 ans, ils inventent tout. C'est le miracle grec, comme disent les historiens. Et comme on l'a vu, la tragédie, elle rejoue le chemin qui va du chaos à l'ordre. C'est ce qu'on a vu avec l'Orestie. Et jamais, jamais, elle n'exclut la possibilité d'un retour au chaos qui résulterait justement de la démesure humaine. Et on comprend à ce moment-là, par là, que la tâche de la tragédie est éminemment politique. La tragédie, c'est pas pour faire joli, c'est pas une création simplement esthétique, pour divertir, non, elle a une fonction éminemment politique. Elle consiste à mettre en scène, devant l'ensemble des citoyens, la formation de la cité, avec ses conflits, avec ses crises, en pointant ce qui la menace et risque d'aboutir à sa dislocation. Vous voyez, elle invite la tragédie, elle invite les citoyens spectateurs qui sont tous là pendant 3 jours, elle invite à réélaborer mentalement les conflits qui ont déchiré la cité, qui risquent toujours de la déchirer, à se les refigurer afin, en quelque sorte, de les conduire à une prise de conscience collective de la fragilité de la cité. Il faut qu'ils soient pleinement conscients de la fragilité, de la cité. Et je reprendrai ici une formule de ce grand historien allemand de l'Antiquité qui s'appelle Christian Mayer et qui a écrit ça dans La naissance du politique. Selon sa formule, la tragédie, je cite, pourvoit à l'assise mentale du politique. Elle pourvoit à l'assise mentale du politique. Donc elle est une pièce très importante dans la démocratie athénienne. C'est une institution politique, hein, la tragédie. Alors, pour comprendre l'effet produit par la tragédie sur le spectateur, il faudrait avoir le temps de lire la poétique d'Aristote, qui vraiment consacre ses travaux à cela. Hein ? Et alors évidemment, je vais juste en dire quelques mots. Juste quelques mots. Aristote, vous le savez, analyse l'effet cathartique de la représentation théâtrale sur les spectateurs. Alors, catharsis, le mot grec catharsis est souvent traduit par le mot purgation, mais ce n'est pas une bonne traduction. Freud ira dans ce sens, hein, il parlera de méthode cathartique. Bon, on se purge d'affects, hein, on se libère d'affects qui sont en quelque sorte coincés en nous. Ce n'est pas une très bonne traduction, ça ne correspond pas vraiment à ce que dit Aristote. Il faudrait plutôt traduire ça par épuration, purification, en quelque sorte. C'est-à-dire, si je cherchais un terme équivalent dans l'œuvre de Freud, je dirais perlaboration, enfin, une sorte de travail sur soi, enfin on travaille sur ses affects, si vous voulez, mais on ne se les purge pas comme ça, hein, on ne s'en libère pas comme ça, brutalement. Alors, donc, vous voyez que la tragédie fait jouer surtout 2 ressorts émotionnels, 2 affects. Et ces 2 affects, c'est d'un côté la pitié, éléos en grec, et puis de l'autre côté, c'est la frayeur, phobos, qui va donner phobie. La frayeur ou la crainte, si vous voulez. Hein. Bon, peu importe. Et pourquoi ces 2 affects sont-ils importants? Parce que ce sont 2 affects asociaux, apolitiques. Ce sont 2 affects qui risquent de défaire le lien politique entre les citoyens. Ce sont 2 affects qui risquent de conduire, si évidemment ils prédominent, à la dislocation de la cité. Alors évidemment, là, je ne vais pas rentrer dans le détail, il faudrait effectivement passer du temps là-dessus. Et c'est pourquoi le théâtre doit agir sur ces affects en leur permettant justement de s'exprimer. C'est-à-dire, vous voyez, l'astuce, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va laisser ces affects s'exprimer pour donner les moyens aux spectateurs de les élaborer. Vous voyez ? Pourquoi la pitié et pourquoi la frayeur sont-ils 2 affects asociaux ? La pitié, parce qu'elle suscite une communauté fusionnelle. Elle abolit les distances entre les citoyens. Distances qui sont nécessaires à leurs échanges, qui sont nécessaires à l'interlocution. Pour se parler, il ne faut pas être en fusion, hein. La communauté fusionnelle, elle fait qu'on communie tous dans le même affect, mais d'une certaine façon, il n'y a plus d'échange. C'est ce qui se passe, par exemple, je ne sais pas, moi, dans une situation où les hommes sont totalement endoctrinés par un dictateur qui les fascine. Vous voyez, ils fusionnent, hein, complètement. Bon, c'est pas de l'interlocution, vous voyez. On n'est plus dans le politique. La politique est abolie. Et puis, d'autre part, vous avez la frayeur. La frayeur, c'est-à-dire au fond la crainte, qui produit à l'inverse la dispersion. Elle produit la dispersion, c'est-à-dire elle écarte les citoyens les uns des autres. Ils ne sont plus en mesure de communiquer. La frayeur interdit l'échange également, mais d'une autre manière, dans les deux sens. L'une fonctionne en sens inverse de l'autre, en quelque sorte. Eh bien, ces deux affects, chacun de ces deux affects exprime ainsi une impossibilité à vivre ensemble. Et ce sont deux affects qui menacent, l'un comme l'autre, la cité de sombrer dans le chaos. Donc vous comprenez pourquoi, à partir de là, eh bien le travail de la tragédie, il y a un travail de la tragédie, va consister à produire une épuration de ces affects, une purification de ces affects, afin d'aider les citoyens spectateurs à élaborer mentalement la menace de dislocation qui hante la cité, pour justement s'en protéger. Vous voyez, le théâtre aide, c'est comme, enfin, je ne dirais pas si c'est une psychanalyse, c'est pas le même procédé, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, il y a un travail en quelque sorte thérapeutique de la tragédie, enfin qui n'est pas que thérapeutique, mais qui donne au fond aux citoyens une certaine conscience de la fragilité du lien politique, mais en travaillant sur ses affects, vous voyez aussi. Pas seulement, c'est les affects et la raison, les deux sont indissociables. Alors, donc, je termine. On a compris pourquoi la cité donc a besoin de l'effroi suscité par les déesses de la vengeance, puisqu'il est nécessaire de faire appel à la vengeance pour, en quelque sorte, maintenir la paix civile, pour éviter qu'elle soit exercée par les particuliers contre d'autres particuliers, c'est ce que nous avons dit, pour éviter d'entrer dans une sorte de violence sans fin. Bon, ça c'est la première raison. Mais il y en a une deuxième, que je vais développer un peu, tant pis, je me laisserai 5 minutes. Une deuxième qui me paraît tout aussi importante, qui est totalement dans le cœur de notre sujet, et qui explique que l'Orestie ne rompt pas avec la vengeance. Alors sans doute, la vengeance est désormais contenue, elle est réglée par l'institution de l'aréopage. Sans doute évite-t-on de cette manière, grâce à elle, que la vengeance donne lieu à une violence sans frein. Pour autant, l'Orestie ne rompt pas avec le principe de la vengeance. Je m'explique. C'est-à-dire que la vengeance continue d'inspirer la logique de la punition. Et ce que je pense très important. Et on développera plus avec Aristote, si vous voulez. Voilà, ce que je voudrais dire simplement, c'est un préambule, si vous voulez, à ce qu'on nous ferons après. On serait tenté de penser que les juges de l'aréopage exercent leur jugement comme les juges de nos tribunaux. Mais si on confond les deux, eh bien on oublie que la justice qui est rendue dans nos tribunaux, c'est une justice qui s'exerce sous l'autorité d'un État et qu'elle est chargée de faire appliquer les lois de cet État. C'est comme ça que ça se passe pour nous. On est d'accord ? Bon. Alors que la justice de l'aéropage, c'est une justice rendue par une assemblée de citoyens dans le cadre de la cité, qui est une organisation politique sans État. Il n'y a pas d'État au-dessus des citoyens. Ce sont les citoyens qui, en assemblée, jugent directement. Il n'y a pas d'État, il n'y a pas de superstructure de l'État, si vous voulez. Dans notre société, les juges prononcent un châtiment qui sanctionne un homme parce qu'il s'est rendu coupable d'un délit ou d'un crime, mais le crime, regardez bien, le crime se définit par rapport à la loi de l'État, comme ce qui en constitue une infraction. Le crime est une infraction à la loi. Le dommage qui est infligé par le criminel à sa victime, c'est d'abord une infraction à la loi. Il est interdit de tuer. Il est interdit de voler, c'est ça la loi. Bon, il se trouve que tu as volé Tartempion, mais tu vas être puni, non pas parce que tu as spécialement volé Tartempion, mais parce que tout simplement le vol est interdit par la loi. Bon. Donc, Ici, le meurtre, le vol ne sont pas des délits privés qui visent seulement des particuliers. Vous voyez? Alors, c'est vrai, le procès, nous, je parle toujours de nous, de notre société, le procès permet à la victime de se faire entendre, de faire reconnaître sa souffrance. Mais, vous le savez bien, la fonction essentielle du châtiment, ce n'est pas de répondre à la souffrance de la victime. La fonction essentielle du châtiment, c'est de régler le rapport du criminel à la loi. Elle se joue essentiellement entre le criminel et la loi. Le mal, c'est le mal commis par le criminel. C'est pas le mal souffert par la victime. Considérer que le châtiment doit avant tout répondre à la souffrance de la victime, c'est prendre le risque, selon nous, de réactiver le processus de vengeance, qui apparaît extrêmement dangereux. Donc pour nous, pour notre type de société, le châtiment n'est juste que si l'on renonce à la vengeance. Vous êtes d'accord? Il y a exclusion. Bon. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe dans l'Orestie? Est-ce ainsi que la justice est conçue dans l'Orestie? L'institution de l'aéropage permet de rompre avec les excès de la vengeance, mais elle ne rompt pas avec son principe. La vengeance, ici, souvenez-vous, dès le début de la pièce, la vengeance réclame une peine. Une peine qui est conçue comme un paiement en retour. Vous savez que la victime exige réparation, compensation, paiement en retour. Hein, c'était l'expression que vous avez soulignée. Eh bien, les juges de l'aéropage, quand ils punissent le criminel, ils n'appliquent pas une loi qui est au-dessus des citoyens, la loi d'un État. Ils entendent d'abord la plainte, l'accusation portée par la victime contre celui qu'elle accuse d'être criminel. Vous voyez ? On parle de la victime. On parle de la victime. Et on entend d'abord son accusation, ensuite on entend l'accusé, on délibère, et après on tranche. C'est-à-dire que la question pour le tribunal, dans l'aéropage, c'est de savoir si la plainte est fondée. C'est de savoir si on peut lui donner satisfaction. C'est de savoir si, au contraire, il faut acquitter l'accusé, s'il est quitte. J'aime bien l'expression. Il est quitte, c'est-à-dire qu'au fond, il est délié de sa dette, en quelque sorte. Hein ? Il est quitte, il est délié d'une dette. Bon. Eh bien, et quand vous voyez l'intervention d'Athéna dans la pièce, elle ne joue pas le rôle d'un accusateur public, c'est pas un procureur qui défend, hein, représente l'État. Hein, c'est pas comme ça qu'elle se présente. La première chose qu'elle fait, Athéna, après avoir institué l'aéropage, c'est d'écouter l'accusation privée portée par les Irini, qui défendent Clytemnestre. Hein, c'est comme ça qu'elle parle. Et puis ensuite, on va écouter l'avocat d'Oreste. Hein, bon. Donc, vous voyez ici que le tribunal a en quelque sorte une fonction médiatrice. Vous voyez ? Il n'est pas au-dessus des parties, il est au milieu, en quelque sorte, des parties. Et le jugement, c'est ce que je veux surtout souligner, ne rompt pas vraiment avec le principe de la vengeance. La vengeance reste au principe de la peine, puisque la victime, au fond, ce qu'elle demande, c'est réparation. Quand vous vous vengez, quand vous réclamez vengeance, vous demandez réparation. Hein, c'est ça que vous demandez. Et au fond, la seule chose que fait simplement le tribunal, et c'est en quoi il y a rupture avec ce qui précède, c'est que le tribunal joue le rôle de médiateur. Il est seul compétent pour rendre un jugement. Et grâce à ça, grâce à sa médiation, eh bien, on évite que la vengeance ne débouche sur un processus interminable de violence. Vous voyez, c'est ça la différence. Mais on n'est pas pour autant dans la logique qui est la nôtre, hein, d'un jugement qui applique la loi, hein, à un criminel. Non, ce n'est pas comme ça que les choses se passent. Alors, vous voyez, en conclusion, vous avez deux conceptions très différentes de la justice qui se dessinent, hein, et du châtiment. Vous avez la nôtre, pour simplifier les choses, où la justice exige le refoulement de la vengeance, et selon nous, une société d'autant plus juste qu'elle s'éloigne de la vengeance, hein, Et le châtiment n'a pas pour office de satisfaire une victime. Il vise avant tout le criminel, hein, en tant qu'il fait infraction à la loi. Bon, ça, c'est la conception qu'est la nôtre. Hein. Si ça, bon, alors évidemment, on ne peut pas dire qu'on n'écoute pas la victime, mais elle est à l'arrière-plan, vous voyez. Et puis, selon la deuxième conception, celle qui s'exprime dans l'Orestie, qui va être développée par le philosophe Aristote, bah, la justice ne rompt pas avec la vengeance, elle est au contraire dans son prolongement. Aristote parlera d'une juste vengeance. Vous voyez ? Donc la vengeance, à ce moment-là, elle n'est plus non plus ce que nous en disons, parce que nous en avons toujours une image négative. Hein ? Nous en parlons toujours comme quelque chose de négatif, quelque chose d'irrationnel, de démesuré, etc. D'excessif par essence. Au contraire, ce que veut montrer ici l'Orestie, et ce que montrera Aristote, c'est que la vengeance peut être régulée. Elle peut être régulée. Il est possible d'éviter qu'elle ne débouche dans l'excès, dans la violence incontrôlée. Et la peine vise essentiellement la victime. Elle consiste à lui donner satisfaction, à réparer, à compenser donc une offense qui a été subie. Et vous voyez, à ce moment-là, d'ailleurs, le mot que préfère sans cesse Aristote pour désigner ici ce type de peine, il n'emploie pas le mot châtiment, il parle de peine, hein, une peine. Et une peine, ça se modèle, on est dans une logique de l'échange, vous voyez. C'est comme si le criminel avait une dette à l'égard hein, de sa victime. Alors que quand vous parlez du châtiment, à la limite, vous mettez au centre le criminel et puis d'une certaine façon à l'arrière-plan la victime. Et là, au fond, l'essentiel, c'est de faire en sorte que le criminel soit sanctionné du fait d'avoir porté atteinte à la loi. Vous voyez ? C'est tout à fait différent. Bon, et ça, c'est très intéressant de comprendre la différence entre ces deux logiques et de comprendre aussi pourquoi, aujourd'hui, depuis surtout Sénèque, depuis surtout la fin de la cité, eh bien, on est dans un discours exclusivement négatif sur la vengeance. On y voit quelque chose de privé, quelque chose de complètement désocialisé, complètement d'irrationnel et de barbare. Ce qui ne correspond pas aux études que font les ethnologues quand ils examinent un certain type de société où justement il n'y a pas d'État, mais il y a une forme de régulation de la violence par un système vindicatoire. J'en reste là. Voilà. Alors là, c'est à cause de lui. C'est lui qu'il faut pendre. Il est impassible. Oui, oui.
Mais est-ce qu'il y a un
tribunal ? Allez-y, monsieur.
Peut-être un petit peu nuancer ce que vous voulez dire, parce que. J'ai écouté les informations à France Inter tout à l'heure, à 7h, et il parlait du procès du vol de Rio Paris,
ouais.
Qui a lieu en ce moment,
ouais.
Et dans lequel, effectivement, là pendant 3 jours, ce sont les victimes qui sont en premier plan.
Oui, il demande un dédommagement.
Oui, mais il mettait vraiment les victimes au premier. La question n'était pas tellement de savoir. La responsabilité d'Airbus et d'Air France dans le gel des soins plutôt, quelle était leur responsabilité professionnelle, c'était quand est-ce qu'ils vont répondre de leur culpabilité face à la défense
de
Il y avait des interviews de familles de victimes qui disaient mais les PDG d'Air France et d'Airbus ne sont pas dans la salle, ils n'attendent pas notre cri et on réclame, ils ne disaient pas ça, mais on sentait. Vengeance. Et c'était le point principal de l'audience.
Alors, c'est
très. Oui, pas
oui, 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 oui.
De déterminer la culpabilité, mais de faire en sorte que les victimes, enfin, les familles des victimes, prient vengeance.
Alors, très intéressant de ce que vous dites, parce que c'est vrai qu'on assiste aujourd'hui, avec les temps modernes, à un retour de la victime. Mais alors, est-ce que ce retour va se traduire par une logique de la vengeance ? C'est peut-être pas aussi simple.
Oui,
On intègre la victime, on lui reconnaît une place. On considère même que le procès va jouer un rôle très très important dans sa reconstruction.
Ah,
voilà, exactement. Et puis même, regardez bien quand il y a eu le procès concernant les attentats, c'était du 13 novembre 2015. Hein, c'est ça? Eh bien, vous voyez qu'on accorde une place extrêmement importante aux victimes. Parce qu'on considère qu'aujourd'hui, hein, c'est une attention nouvelle, si on peut dire, hein, qu'il n'y avait pas il y a quelques décennies. On considère que c'est très important pour les victimes de voir reconnue leur souffrance, la violence qu'elles ont subie. Mais pour autant, on reste toujours dans l'idée que quand il va s'agir de prononcer la sanction, elle passe, qu'on le veuille ou non, un peu à l'arrière-plan. On ne prétendra pas réparer la victime en prononçant un châtiment. Alors, on est sur la corde, hein, vous voyez. Et ce beaucoup de gens ont du mal à comprendre, c'est que on pourrait le dire violemment, mais enfin, ce serait épouvantable pour des gens qui ont été victimes. Mais vous savez, la justice, c'est pas fait pour satisfaire votre douleur, hein, pour vous rendre vos proches qui ont été... Non, c'est pas fait pour ça. C'est pas fait... Jamais aucune peine ne sera à la hauteur de la souffrance que vous avez vécue. Personne. Hein, ça, on est d'accord.
Et la justice, le procès peut être...
Alors, le procès, par contre, contribue, mais alors là, c'est plus une fonction simplement, finalement, pénale. On n'est plus dans une logique uniquement du pénal, au bout du compte, hein, mais dans une logique, je dirais psychologique, je ne sais pas, où là, effectivement, c'est très important de reconnaître la victime, de lui donner le temps de parler, d'être connue, c'est très important. Et c'est vrai que les victimes se sentent bafouées, hein, niées, quand, effectivement, ce que vous avez dit, hein, ceux qui, d'une certaine façon, sont tout de même indirectement impliqués dans le drame qui s'est réalisé, ne sont même pas présentes. Hein. Ils veulent avoir en face d'eux quelqu'un. Non pas forcément pour le lyncher, hein, mais voilà, pour répondre à ces actes. Non, mais ça, c'est ce que vous dites est très important. Et c'est vrai que là, bon, moi, j'étais forcément un peu... Mais c'est vrai que ça reste vrai, ce que je dis reste vrai malgré tout. Ça reste vrai. Hein, les victimes restent tout de même à l'arrière-plan. Et si on met, par exemple, si on fait du show télévisé, hein, si on dit, moi, la victime, elle a été injustement, elle a été torturée, etc. Moi, les coupables, pas de procès. Je les exécute tout de suite ou je les mets tout de suite en prison à perpétuité. Bon, bah ça, on est dans une logique de la vengeance. Et là, on fait fonctionner des pulsions qui sont effectivement extrêmement douteuses. Hein. Là, c'est autre chose. Mais c'est très difficile, hein, de faire comprendre ça. Très difficile. Enfin, c'est pas seulement une question intellectuelle, je veux dire. Hein. C'est difficile aussi de sentir la limite.
Et souvent dans les procès, il n'y
a pas de
coupable. Dans beaucoup de procès contemporains, on voit qu'il n'y a pas de coupable.
Il n'y a pas de coupable.
Si le coupable est mort, il y a une cessation.
Oui.
L'attentat était responsable, mais il est coupable. L'attentat de Nice.
Oui. Oui, ah oui. Oui, oui. Et on a estimé nécessaire de faire tout de même le procès pour des raisons de reconnaissance des victimes. C'est vrai. C'est vrai qu'on a là un changement, un déplacement tout de même du centre de gravité en quelque sorte du procès. C'est vrai. Oui, on a besoin d'un éclaircissement là-dessus.
Je n'ai pas bien compris, ça tenait la tragédie, fait jouer la pitié et la frayeur.
La pitié.
Là,
pitié.
Pitié, oui.
Ouais.
Je n'ai pas bien compris. Deux affects associés.
Oui, alors c'est très rapide ce que j'ai fait. Non, parce que c'est fusionnel. Bon, mais c'est vrai que là c'est trop rapide. Je l'ai fait rapidement. J'en ai parlé rapidement avec Aristote. Il faudrait effectivement lire de près effectivement les textes. Disons qu'il y a des, il y a des, il y a des, comment dirais-je, des affects qui sont fusionnels et qui, en ce sens-là, ne permettent pas un lien réellement politique. Un lien politique, ça implique une certaine proximité, mais aussi une certaine distance. Hein, c'est pas la fusion. C'est-à-dire que les citoyens sont dans un rapport d'interlocution, d'échange. Donc, qui implique une relative distance des uns par rapport aux autres. S'ils sont dans un truc purement fusionnel, bah, comme ça se passe, par exemple, je ne sais pas, moi, je m'éloigne d'Aristote, hein, mais dans un système totalitaire, par exemple, où là où il y a une sorte de lien fusionnel entre les individus, ils partagent, ils communient tous dans une même idéologie, bon, on n'est plus dans du politique. Voilà. Et ça, ça peut emporter les gens vers une sorte d'élan qui peut être dangereux. Bon, mais là, c'est trop rapide ce que j'ai dit. Mais je voulais simplement vous faire comprendre qu'il y a dans l'œuvre d'Aristote, dans tout ce qu'il dit sur la tragédie, d'abord un rapport très précis aux tragédies antiques de son temps, et une réflexion qui n'est pas purement et seulement esthétique. C'est ça que je veux dire. C'est que nous, quand nous parlons de théâtre, nous pensons que c'est un genre purement littéraire, point. Alors, c'est un genre littéraire, oui, mais il a une dimension politique très importante. Oui ?
Est-ce qu'on peut dire qu'une bonne justice est la garantie d'un État stable ?
Oui. Oui, mais qu'en va-t-on entendre par bonne justice ? C'est le problème. Alors là, je parle surtout de la justice pénale. Hein.
Non, mais donc la cité tenait bien parce que la justice était rendue.
Oui, mais là, c'est une dimension, une des dimensions de la justice.
Oui.
Parce que, qui concerne, au fond, les litiges, les contentieux, les crimes, etc. Mais ce n'est qu'une des dimensions de la justice. Il y a aussi ce que Aristote appelle la justice distributive, c'est-à-dire, au fond, la justice sociale, la justice... Bon, il y a plusieurs dimensions de la justice. Et donc, on ne peut pas la restreindre uniquement à ce qu'il appelle la justice corrective. Voilà. Il y a tout cela qui est derrière. Voilà. Mais c'est un auteur, Aristote, un philosophe, pour moi, très important pour réfléchir sur le politique, pour réfléchir sur un tas de choses. Et bien, a priori, apparemment, il n'est pas excitant parce que c'est un peu âpre comme philosophe. Hein. C'est pas toujours plaisant à lire, hein, mais c'est très important.
Ouais. Mais les Grecs n'ont pas été jusqu'à inventer le code pénal. Ça suppose qu'il y a un État pour
Ah, alors là, c'est complexe, parce qu'il y a un code, il y a des codes, mais qui ne sont pas, qui ne sont pas forcément dictés par un État. Il peut y avoir des codes sociaux qui relèvent d'une opinion publique, en quelque sorte, qui relèvent des mœurs, qui ne sont pas écrits, hein, mais qui règlent les conduites. Qui règle les comportements. Pour Aristote, par exemple, la vengeance, elle va passer par ça. C'est une passion qui... Alors, la passion qui est le moteur de la vengeance, c'est la colère. D'ailleurs, on le voit bien. On parle sans cesse de la colère. C'est la colère qui est à l'origine de la vengeance, mais la colère est une passion qui peut se socialiser, qui n'est pas uniquement comme on va la décrire après, comme on va décrire ensuite la vengeance, comme quelque chose de purement irrationnel, de purement, qui s'oppose radicalement à toute forme de socialisation, de société. Ça, c'est l'idée. Nous, quand nous représentons la vengeance, nous la représentons toujours comme quelque chose qui est de l'ordre de la barbarie. Mais ça, c'est...
Ouais, ça peut être une question d'honneur aussi.
Et voilà, c'est une question d'honneur. Absolument. Là, et pour, tout à fait. La vengeance, c'est une question d'honneur. C'est pas simplement je me venge pas seulement parce que j'ai reçu une blessure physique de la part de quelqu'un, mais parce que cette blessure est une offense. J'ai perdu la face. Absolument. C'est aristocratique, d'une certaine manière. Hein. Les esclaves ne se mangent pas. Et un homme qui ne se mange pas, qui n'a pas l'idée de se manger, il n'a pas l'idée d'être un homme. Vous voyez ? Alors attention, ceci dit, la vengeance, c'est pas, on ne se laisse pas, on ne se livre pas, n'importe quelle violence, non. Vous voyez ? Mais c'est très intéressant d'examiner tout ça et on pourrait, alors là il faudrait effectivement consulter les ethnologues, on pourrait montrer que dans beaucoup de sociétés archaïques, il y a des codes de vengeance, il y a des systèmes vindicatoires qui montrent que il y a une sorte de régulation des échanges sociaux par le biais de la vengeance et que quand on se venge, on ne se permet pas n'importe quoi. On ne se laisse pas aller à n'importe quelle violence. Contrairement à l'idée qu'on s'en fait. Parce que ça, c'est l'idée. Vous voyez, alors, il faudrait peut-être commencer d'abord par réfléchir sur l'idée négative que nous avons de la vengeance. Quels sont tous les traits caractéristiques de cette vengeance, hein, comment nous la représentons, pour pouvoir d'autant mieux ensuite montrer une analyse comme celle d'Aristote. Et ensuite, essayer de comprendre pour quelles raisons au fond, cette conception positive de la vengeance a disparu. Il y a un code d'honneur, tout à fait.
Mais les mœurs ne sont pas totalement étrangères au code pénal, alors que ils devraient l'être, a priori. Je pensais à l'IVG, par exemple, où on voit bien que ça crée des tensions entre
oui.
La loi et
oui, c'est pas tout à fait la même chose. Ouais. Mais enfin, dès qu'il y a loi, il y a écrit. Hein. Et avec un État qui... il y a des sociétés sans État. Des sociétés sans État. Et, une forme, et pour autant, c'est pas n'importe quoi. Pas n'importe quoi. Il y a une sorte de régulation qui se fait autrement. Et la cité grecque, c'est une cité, c'est une société sans État. On a tendance à l'oublier. Donc, si vous voulez, moi, ce que je proposerai la prochaine séance, c'est de montrer l'argumentation d'Aristote, montrer comment il analyse la vengeance à partir de la colère, etc. Enfin, tout ça. Et puis... montrer l'opposition, enfin, en contrepoint, montrer l'analyse qui va être celle de Sénèque, quelques siècles après. Et étant entendu que Sénèque, c'est ce stoïcien qui lui-même reconnaît que la cité a disparu, que les valeurs civiques de la cité n'existent plus, qu'on ne compte plus, les citoyens ne comptent plus sur leur rapport aux autres citoyens pour construire ensemble un ordre. Et c'est l'État joue un rôle central. C'est l'État qui va gérer essentiellement les échanges sociaux. Et l'individu devient un individu privé. Hein, essentiellement. Ça, c'est une transformation totale de la manière d'être. Et bon, ce que nous sommes est aussi fonction largement du système social, culturel, dans lequel nous sommes placés. Hein, c'est ça qui est intéressant. Ça. Vous voyez ? Si vous avez d'autres questions. On n'a pas encore administré la peine. On va peut-être arrêter là. Donc la prochaine fois, c'est le 5. Non, c'est le 6 décembre. 6 décembre.